Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, nous continuons notre dialogue sur la liturgie.
Bonjour et bonjour à tous.
Alors, nous avons parlé de la liturgie comme relation au Père, de l'adoration. Frère Édouard, tu nous avais précisé que finalement, l'adoration se comprend assez bien avec la tradition juive des bénédictions, toutes les bénédictions de la journée où le croyant est en relation avec son Dieu. Et nous avions évoqué aussi, finalement, nous avons la liturgie des heures qui permet de donner le temps à Dieu, montrer la relation de l'homme en tout temps à son Dieu, c'est ce qu'il désire profondément. Il est pourtant important de nous rendre compte que dans notre foi chrétienne, foi en Dieu de Trinité, la relation au Christ va être importante aussi. Or, on pourrait se dire, pourquoi la liturgie ne serait pas comme dans la foulée de ce qu'on reçoit de la tradition juive, puisque ce sont nos pères dans la foi. La tradition juive nous renvoie à nos pères dans la foi, les croyants juifs. Pourquoi ça ne suffit pas ?
Alors, c'est sûr que nous avons reçu ce que nous appelons l'accomplissement de la révélation, et de par le fait, il y a continuité. Et nous l'affirmons par exemple en prenant nos lectures dans la Première Alliance. Souvent, à la liturgie de l'Eucharistie, nous avons des lectures de la Première Alliance, de ce qu'on appelle aussi l'Ancien Testament, avec les mots mêmes de saint Paul. Mais il y a la prière des psaumes, qui est très très présente dans nos liturgies de chaque heure, dans la liturgie eucharistique aussi, où le psaume apparaît entre la première et l'évangile, la première lecture et l'évangile. Et puis, il y a la mémoire des événements sauveurs qui nous ont accordé le salut. Pensons à l'Exode, à la Pâque juive, pensons à toutes les promesses de l'Alliance, pensons au royaume et au temple de Dieu que David et Salomon ont réalisé, qui déjà donne un avant-goût de ce qui sera le ciel. Et l'exil et le retour aussi, qui nous montrent bien ces va-et-vient du peuple de Dieu qui, à chaque génération, doit se convertir. Tous ces éléments sont pour nous des figures. Et la figure appelle la réalité. Cela ne dévalue pas la figure, au contraire l'honore, puisque nous disons que c'est une figure d'une réalité plus essentielle, et cette réalité plus essentielle, c'est celle que le Christ est venu nous révéler gratuitement. Nous n'étions pour rien, nous étions soit des païens, soit des juifs qui avons reçu cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et le Christ nous a réconciliés en lui, formant un homme nouveau, en formant un corps nouveau, formant une cale, c'est-à-dire une église nouvelle, une convocation nouvelle, pour nous réunir dans une unique offrande, dans une unique adoration. Nous avions déjà un petit peu abordé la dernière fois le thème de l'offrande. Jésus est venu nous sauver par son offrande. Et c'est important de le comprendre que si nous voulons mettre nos pas dans les pas de Jésus, nous allons alors prendre son propre chemin. Saint Paul dit « Imitez-moi, mon modèle à moi, c'est le Christ », 1 Corinthiens 11. Et de ce point de vue-là, nous comprenons très bien qu'il va falloir que nous nous engagions à la suite de Jésus dans une sequela Christi qui va avoir un sens d'offrande comme lui-même est offrande à son Père. C'est à ce moment-là que le Christ prend pour nous une centralité qui ne décentre pas de Dieu le Père, au contraire, puisque le Fils est toujours le Fils du Père, mais qui l'ajuste dans un mouvement qui part du Saint-Esprit, qui nous a été donné par l'intercession du Fils, et qui nous conduit par le Fils vers le Père. C'est plutôt un chemin, si vous voulez, qui conduit au Père. Ce n'est pas nous désolidariser de la prière juive, mais c'est de l'accomplir. Et qui dit accomplissement dit nécessairement continuité, et nous l'avons montré à travers tous ces éléments de continuité avec le judaïsme, mais aussi dépassement. Et il n'y a pas de dépassement, en vérité, sans un certain arrachement, sans une certaine rupture. Donc le Christ a lancé ses apôtres à la conquête du monde, en quelque sorte, en leur donnant la mission d'annoncer cet évangile à travers toutes les nations, en demandant de les baptiser dans sa mort et dans sa résurrection, les plonger dans sa mort et sa résurrection, pour leur permettre d'atteindre finalement cette demeure éternelle et retourner vers le Père, vers cette liturgie céleste, vers cette Jérusalem céleste qui nous attend.
Autrement dit, dans le Christ, nous reconnaissons le Père qui a ressuscité son Fils et qui nous entraîne dans ce mouvement. Tu parlais de la Sequela Christi, la suite du Christ. Nous voulons le suivre pour avoir cette même destinée, si je puis dire, parce que nous voulons être ressuscités aussi. Et au cœur de la liturgie chrétienne, c'est cet acte pascal, c'est cette expérience de la Pâque. Ça m'évoque beaucoup de choses. Je pense, dans le temps pascal, nous avons une préface qui dit quelque chose que certains des fois entendent d'une manière un peu étonnée, dans la Pâque du Christ, nous sommes déjà ressuscités. certains se disent, mais nous ne sommes pas encore ressuscités, nous sommes dans le sillage, dans la foulée, et pourtant, la liturgie telle que la présente le catéchisme, telle que tu la présentes, c'est bien effectivement, nous vivons ici, en cette terre, nous sommes déjà capables, dans le mouvement de la liturgie, de vivre la liturgie céleste, cette proximité grâce au Christ, cette proximité du Père, de la joie, du bonheur, de la sainteté qui nous est promise.
Oui, la liturgie, un jour, Alcuin disputait avec Charlemagne, et Charlemagne se demandait bien pourquoi tous ces temps de liturgie. C'était un hyperactif, Charlemagne, et il ne voyait pas très bien l'intérêt de toujours faire des pauses, s'arrêter, les liturgies. Et ce grand théologien qui venait d'Angleterre, Alcuin, lui dit, mais la liturgie, c'est la joie de Dieu, et la liturgie est un avant-goût donc de la joie céleste, des anges, de ce mouvement extraordinaire qu'il nous propose d'être avec les anges, les séraphins, avec tous les cours célestes et avec tous nos pères qui nous précèdent dans la foi, qui sont déjà à louer Dieu. Et donc on comprend très bien que nous sommes déjà transférés dans son royaume que le Christ nous a ouvert, et ce transfert est vraiment un acte de foi. Colossiens 1,13, le Christ nous a transférés dans le royaume. Nous y sommes déjà par le baptême, mais c'est ça tout le mystère chrétien, c'est de foi. Et la foi se donne dans l'invisible, la foi se donne dans l'obscurité. Et de ce point de vue-là, nous y sommes, mais il y a encore beaucoup à tracer avant que nous passions nous-mêmes par notre propre Pâque, à l'imitation de la Pâque du Christ, où il faudra bien mourir pour rentrer dans la vie définitive, même si déjà nous l'avons en art, nous l'avons en vérité, et nous sommes de ce point de vue-là déjà, par rapport au monde païen, ressuscité, si vous voulez, mais une résurrection de foi, de salut, une résurrection d'espérance et de grâce, une résurrection de charité. Et avant d'être dans le face-à-face, il y a encore beaucoup à faire, mais la semence est déjà là, et la certitude que, dans l'acte d'espérance, que la grâce nous est donnée, et que les promesses que Jésus nous a assurées, il les tiendra.
Quand je t'écoute citer Alcuin, où tu disais que la liturgie, c'est la joie de Dieu, je me dis que finalement, pour nous chrétiens, pour nous qui célébrons, qui aimons célébrer, c'est justement la liturgie nous fait apprendre à aimer que Dieu soit joyeux. Je n'ai presque envie de dire ça comme ça, ça fait peut-être un peu naïf. Mais la joie, est-ce notre joie que Dieu soit en joie? C'est une autre manière de dire les choses. Parce que souvent, comme Charlemagne, hein, combien peuvent se dire c'est trop long les liturgies, il y en a trop, on aurait autre chose à faire, il faudrait plutôt aller aider ceux qui ont besoin de nous. Tout ça est vrai, d'une certaine façon, en tout cas aller aider ceux qui ont besoin de nous. Mais c'est important peut-être de se dire que notre relation à Dieu est au prix d'essayer de reconnaître, je vais presque dire, les mouvements de sa joie, les mouvements de la vie qu'il nous communique. Quelle est notre joie à prier, à recevoir ce qu'il nous donne pour faire notre joie. En fait, la joie de Dieu, c'est de faire notre joie.
Certainement. Et un grand, comme saint Augustin disait, dans les paroles de Dieu, découvre le cœur de Dieu. Et la parole de Dieu nous renvoie sans cesse à ce mouvement de va-et-vient, un peu comme un cœur qui est en systole et en diastole, qui bat en se dépliant, puis en se resserrant en quelque sorte. Et ce mouvement permanent, c'est ce que nous offre la liturgie, car dans la dernière émission, nous le soulignons, frère Philippe, nous avions évoquer la mission finale à laquelle nous convie finalement la liturgie eucharistique chez les chrétiens, ite missa es, aller la messe est dite, comme on traduisait d'une manière un peu naïve, mais en fait c'était aller en mission, partez en mission, c'est-à-dire aller vers ceux qui sont dans le besoin, aller faire les gestes du Christ, les gestes sacramentaux du Christ au milieu de vos frères les hommes, parce que vous avez reçu le sacrement de la présence du Christ qui vous donne la force, qui vous donne la charité, qui vous donne la grâce du Saint-Esprit pour aller vers vos frères. Et vous faites la joie du Père quand vous rentrez dans le mouvement même de ce que le Fils vous demande.
D'une certaine façon, au cœur de la liturgie, il y a la messe, il y a cet acte dans la messe où le Christ revit sa passion, meurt et ressuscite pour nous, et nous entrons là-dedans. Donc là, c'est cet acte pascal, l'œuvre de la résurrection. Finalement, toute la liturgie, même hors de l'Eucharistie, la liturgie des heures, est une sorte d'explosion de cette résurrection encore, est une continuation de cette résurrection. Mais ça va encore plus loin de dire que l'homme dans la liturgie, l'homme qui prie, est celui qui veut mettre cette expérience de la résurrection, cette communication de la vie de Dieu dans toute son existence.
Oui, dans toute son existence. Et Irénée disait, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, mais la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu.